Bonjour à vous tous. Moi, c'est Nicolas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un des pasteurs de cette église Grenoble-Est et c'est mon privilège d'ouvrir la parole de Dieu avec vous. Aujourd'hui, comme vous savez peut-être, on est dans une série dans le livre d'Exode. C'est la grande série de l'année, mais de temps en temps, on fait des petites pauses et il y a une mini-série qui se déroule en parallèle de cette grande série. Sur ce qu'on appelle parfois les sept péchés capitaux. Et c'est vrai qu'on a enraciné cette série dans un texte de 2 Pierre, chapitre 1. Le titre de la série, Tous nos efforts, c'est lié à quelques versets de ce premier chapitre où Pierre commence dès les premiers versets à nous raconter tout ce que Dieu nous a fait, toute la bonté, la générosité de Dieu à notre égard. Il a fait tout ce qui était nécessaire pour la vie et pour la piété. Et maintenant, dit Pierre, face à la générosité de Dieu, on a un effort à faire, même un grand effort pour continuer à progresser, à vivre une vraie croissance et à porter du fruit. Et donc, on fait face quand même, en parallèle, à un certain nombre de péchés qui peuvent nous empêcher de faire cet effort, de progresser. Et on regarde ces choses en parallèle avec un certain nombre de qualités ou de vertus. Et c'est vrai qu'on a commencé avec le péché de ce qu'on appelait l'acédia. Acédia, la flemme affective, une paresse dans notre obéissance au commandement de Christ, et notamment dans notre amour pour Dieu et notre amour les uns pour les autres. Le deuxième péché, c'était ce qu'on a appelé invidia, ou l'envie, le culte de la comparaison, ou le désir d'avoir plus que ce que Dieu me donne, surtout quand je me compare aux autres autour de moi. Je préfère ce que les autres ont par rapport à ce que j'ai. Et puis, troisième péché qu'on a déjà vu, c'était superbia. On a appelé ça le soi situé au-dessus. On est dans le domaine de l'orgueil, du désir de se mettre en haut. Et le dimanche dernier, pour ceux qui n'étaient pas là, on a eu le privilège d'accueillir Brad Dixon, qui nous a fait un survol fascinant et interpellant de l'enseignement biblique au sujet de l'hospitalité, une vertu qui est intimement associée à la vertu de la générosité. Cette qualité qui dispose à sacrifier son intérêt personnel pour le bien de quelqu'un d'autre, et notamment quelqu'un qui est dans le besoin. Et c'est avec cette vertu en tête, la générosité, qu'on va nous focaliser aujourd'hui sur un quatrième péché, le péché de l'avarice. De l'avarice, un attachement excessif aux biens matériaux, aux richesses, peut-être à la sécurité que les finances peuvent nous donner, au confort. Et j'aimerais lire un petit passage de l'évangile de Luc, qui ne sera pas notre texte principal pour aujourd'hui. C'est juste, en fait, c'est une parabole que Jésus raconte, qui est peut-être le texte par excellence pour le sujet de l'avarice, mais comme j'ai plutôt envie de passer la majorité du temps sur le sujet de la générosité, on va commencer ici, puis on va progresser vers le thème de la générosité. Donc c'est Luc chapitre 12, et c'est les versets 13 au verset 21. Donc Luc 12. Versets 13 au 21, le texte va s'afficher derrière moi. Peut-être que je peux juste même le lire là. Ah non, c'est un peu bloqué là. 12, 13 à 21. Du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. » Jésus lui répondit, « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis leur dit, gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, que vais-je faire? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai deux plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, homme dépourvu de bon sens, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé? Pour qui cela sera-t-il? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Et voici la question conductrice qui va nous orienter dans notre réflexion, qui commence avec ce petit passage. À quoi ressemble une église constituée de frères et sœurs qui, plutôt que d'amasser des trésors pour eux-mêmes, sont riches pour Dieu? J'aimerais prier. Et puis, on va lire un deuxième texte qui sera notre texte principal. Je vous invite à prier avec moi. Maman, commençons ce message. Seigneur, je suis conscient d'un grand danger. Peut-être qu'il y en a qui commencent même à ressentir le potentiel qu'on tombe dans un piège. Un piège de condamnation où on va nous retrouver peut-être devant, encore une fois, peut-être une liste de choses à ne pas faire, une liste d'autres choses à faire et de réaliser encore une fois que je ne suis pas à la hauteur. Mon rapport avec les biens, ce n'est pas bon, il faut que je change et que ce soit quelque chose de lourd et peut-être culpabilisant. Et Seigneur, ce n'est pas ce genre de message dont on a besoin. Nous sommes convaincus que ce n'est pas ça qui va nous changer, nous transformer, nous aider à vivre cette belle vie à laquelle tu nous appelles en Jésus-Christ, à cultiver ces qualités de cœur, ces traits de caractère qui viennent de ton Esprit Saint. Non, ce n'est pas ta loi qui va faire ce changement, c'est ta grâce qui se manifeste principalement en ton Fils Jésus-Christ. C'est l'œuvre de ta bonté, c'est les modèles de bonté, de générosité qui vont nous inspirer, nous pousser, peut-être à vivre différemment, avec un vrai désir profond de t'honorer avec nos biens. Donc accompagne-nous Seigneur maintenant, rassure nos cœurs que ton message pour nous, dans ce texte qu'on va voir, ce n'est pas un message de condamnation, mais plutôt d'invitation. Une invitation à vivre quelque chose de très très beau et extraordinaire qui nous fera du bien et qui fera beaucoup de bien aussi aux autres. C'est ce que je prie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, une deuxième lecture alors. Notre texte principal se retrouve dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 8. Et je vais lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 15. Et encore une fois, le texte normalement va s'afficher derrière moi. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 1. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse à cette église grande, peut-être un ensemble même d'églises qui se situe à Corinthe et dans la région aux alentours. Et il dit ceci, « Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine. Au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste. Ils ont donné volontairement, selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Ils ont fait plus que ce que nous espérions, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons donc encouragé Tite à parachever chez vous aussi ce geste de générosité, comme il avait d'ailleurs commencé. De votre côté, vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance, le zèle à tout point de vue et l'amour pour nous. Faites en sorte que la même abondance se manifeste dans cet acte de grâce. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver la sincérité de votre amour par l'exemple du zèle des autres. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que, par sa pauvreté, vous soyez enrichis. C'est un avis que je donne à ce sujet. Et c'est ce qui vous convient, puisque dès l'année dernière, vous avez été les premiers, non seulement à faire une collecte, mais aussi à la vouloir. Menez-la donc maintenant à bien, afin que sa réalisation corresponde, en fonction de vos moyens, à l'empressement que vous avez mis à la vouloir. Quand la bonne volonté existe, on est bien accueilli en fonction de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. En effet, il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour en soulager d'autres, mais de suivre un principe d'égalité. Dans les circonstances actuelles, votre abondance pourvoira à leurs besoins, afin que leur abondance aussi pourvoie à vos besoins. C'est ainsi qu'il y aura égalité, conformément à ce qui est écrit. Celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu ne manquait de rien. Bon, peut-être vous ressentez déjà un peu l'inconvénient de ce genre de prédication que je suis en train de faire. En général, nous avons tendance à faire ce qu'on appelle des prédications suivies, où on commence tout au début de l'histoire, avec l'introduction et tout le contexte. Et on avance passage par passage, texte par texte, et on arrive à bien se situer parce qu'on sait où on était, peut-être on a même un petit aperçu de là où on va. Et avec ce passage, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on arrive comme avec des parachutes au milieu d'un champ et on ne sait pas du tout ce qui se passe en fait. Paul parle de quelle situation en fait et pourquoi est-ce qu'il écrit tout ça là? Donc, juste quelques éléments de contexte pour nous aider à nous situer face à ce beau passage. Donc, et Paul écrit cette lettre, qu'on appelle 2 Corinthiens, aux églises de la ville de Corinthe, et probablement de tout un tas d'églises dans la région qu'on appelle Achaïe, qui se situe aujourd'hui dans la région plus au nord du pays de la Grèce. Et comme c'est une région plutôt prospère à l'époque de Paul, les églises sont très bien ressourcées, avec un pourcentage conséquent de chrétiens plutôt aisé, sinon riche. Et quand Paul arrive à Corinthe, et il commence à parler avec les églises là-bas de la souffrance des frères et sœurs chrétiens d'origine juive à Jérusalem à cause d'une grande persécution, alors là, les chrétiens à Corinthe sont touchés. Ils s'engagent à préparer une collecte. Ils se disent, tiens, on va prendre du temps pour commencer à mettre de côté de l'argent au fur et à mesure. Et comme ça, quand tu reviendras, on aura un grand don à te donner pour soulager nos frères et sœurs à Jérusalem. Et c'est d'autant plus frappant de voir ce désir d'aider, sachant qu'il s'agit quand même d'églises principalement, constituées principalement par des chrétiens non-juifs. Donc des non-juifs qui cherchent à bénir des juifs avec un partage des biens financier. C'est assez frappant. Donc, Paul est super content et il continue son voyage missionnaire et hop, plus tard, il arrive dans les églises d'une région qui s'appelle la Macédoine, qui est plus vers le nord de ce qu'on appelle Grèce aujourd'hui. Est-ce qu'on dit la Grèce plutôt? La Grèce aujourd'hui. Et alors là, on a des églises comme l'église à Philippe, Thessalonique, Bérée, on a rencontré ces différentes églises en Actes et avec différentes épîtres. Et là-bas, Paul commence à raconter, encore une fois, la situation des frères et sœurs à Jérusalem. Mais en plus, il dit qu'il vient de vivre quelque chose d'extraordinaire à Corinthe, en Achaïe, parce que les frères et sœurs là-bas se sont engagés pour faire une grande collecte pour soulager les églises à Jérusalem. Bon, il y a une grande différence entre les églises de la Macédoine et les églises de Corinthe sur le plan financier. Parce que les églises de la Macédoine sont des églises très, très pauvres. Et la Macédoine est connue comme une région très, très pauvre. Pourtant, quand les chrétiens là-bas entendent parler de la situation à Jérusalem et de la générosité proposée par l'église de Corinthe, la réponse immédiate, c'est « Nous aussi, nous avons envie de contribuer. Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et tout de suite, ils se lancent dans une forme de récolte de dons. Et en fait, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que malgré leur propre souffrance, malgré leur propre pauvreté, ils arrivent sur le coup à faire un don impressionnant. Et Paul est juste émerveillé par ce don. Il repart. Et puis, on ne sait pas combien de temps plus tard, il commence à entendre parler de ce qui se passe à Corinthe. Il a un de ses collègues, Tite, qui est là-bas et qui était à la base impliqué dans le processus de lancer la collecte. Et Tite a une mauvaise nouvelle. Et c'est que justement, cette collecte à Corinthe n'avance pas. On a perdu le désir et justement, on a un grand danger que malgré les promesses, quand tu arrives à Corinthe pour récolter ce don, pour le ramener à Jérusalem, il n'y aura pas grand-chose. Je vous invite juste à lire les premiers versets de chapitre 9 qui nous donnent quand même une petite synthèse, chapitre 9 de cet épître de Corinthiens, où Paul dit ceci. « Il est superflu que je vous écrive au sujet de ce service en faveur des saints. » Là, il est question des saints à Jérusalem. « Je connais en effet votre bonne volonté. Je m'en montre fier pour vous auprès des Macédoniens. » En affirmant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière et votre zèle a stimulé la plupart d'entre eux. J'envoie cependant les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas démenti sur ce point et que vous soyez prêts, comme je l'ai affirmé. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent, et ne vous trouve pas prêt que cette belle assurance tourne à notre honte, pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'encourager les frères à se rendre chez vous, avant moi, pour s'occuper de l'offrande que vous aviez promise. Ainsi, elle sera prête, comme une vraie bénédiction, et non comme une manifestation de votre soif de posséder. Je relis juste cette dernière phrase là. C'est là où on a un aperçu de l'inquiétude de Paul concernant ce qu'on appelait aujourd'hui l'avarice. Et non comme une manifestation de votre soif de posséder. Dans ce petit paragraphe, on découvre deux inquiétudes chez Paul. D'abord, il s'inquiète que les églises de Corinthe cèdent au péché de l'avarice. Ici, on appelle ça la soif de posséder, un attachement excessif aux biens matériaux, et ne tiennent pas leur parole quant aux dons financiers. Et puis une deuxième inquiétude, c'est que Paul et ses collègues arrivent peut-être accompagnés par des frères et sœurs des églises de la Macédoine. Ils se retrouvent dans l'embarras vis-à-vis de ces églises. Après avoir parlé librement de la générosité des Corinthiens, vous pouvez imaginer la situation, que les Macédoniens soient inspirés par la générosité des Corinthiens. Et hop, on arrive chez les Corinthiens, on trouve que c'est pas du tout ça. Voilà, les deux inquiétudes. Et donc là, Paul, dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, versets 1 à 15, il va se servir de trois éléments de motivation pour quand même encourager, peut-être même provoquer un petit peu les Corinthiens pour qu'ils aillent jusqu'au bout, pour mener à bien leur projet. Et les trois points, je pense que ça affiche derrière moi, c'est le modèle des églises de la Macédoine, dans les versets 1 à 5. C'est le sacrifice de Jésus-Christ, dans les versets 6 à 9. Et puis, c'est un rappel de l'engagement initial de l'église de Corinthe. On va juste regarder rapidement ces choses avant de réfléchir un peu concrètement. Qu'est-ce que tout ça veut dire pour nous? Donc d'abord, la générosité des églises de la Macédoine comme modèle. Et là, je vous invite juste à revenir au premier verset de chapitre 8. Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine. Et là, j'aimerais juste m'arrêter sur cette notion de la grâce. Dans ce contexte, en chapitre 8, c'est un mot qui revient beaucoup, cette grâce, cet acte de grâce. Vous avez vu ça? Cet acte de grâce qui se répète. Ce qui est quand même intéressant, c'est que pour Paul, c'est pas parce que les Macédoniens sont plus généreux que les autres chrétiens. Non, c'est parce que Dieu lui-même est généreux. Et dans sa générosité, il a fait grâce à mettre sur le cœur de ce groupe de chrétiens ce désir profond d'être généreux envers les autres. Donc c'est intéressant de voir que ce n'est pas une question de supériorité, mais tout commence dans la grâce du Seigneur qui fait cette grâce, ce cadeau, ce privilège. Il invite cette église qui est dans une pauvreté profonde quand même à pouvoir contribuer quelque chose à cette offrande. Et donc c'est intéressant de voir cette possibilité de donner aux autres qui sont dans le besoin comme une grâce qui vient du Seigneur et que même le désir c'est une grâce. Ça c'est quand même intéressant, on peut s'arrêter là rapidement et se dire tiens, si moi-même j'ai pas trop envie de donner aux autres, si je suis pas très conscient des besoins des autres, en fait, si j'ai tendance plutôt à rester focalisé sur ma propre situation et mes propres besoins, plutôt juste me culpabiliser par rapport à ça, « Ah, je suis un mauvais chrétien, je ne suis pas une bonne personne », eh bien là, on peut demander au Seigneur cette grâce. Seigneur, cette même grâce que tu as donnée aux églises de la Macédoine, je veux que tu me fasses cette grâce aussi pour que j'aie un désir vif de participer à ton œuvre de générosité, surtout en faveur de ceux qui sont dans le besoin. Donc un premier point ici, dans les premiers versets. Deuxième chose à remarquer, c'est dans le verset 2. Au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance. Donc on ne connaît pas les détails des souffrances des églises à la Macédoine. On sait que l'église à Jérusalem est persécutée. C'est fort probable qu'il y ait des éléments de persécution aussi pour les églises à Philippe, à Thessalonique, Bérée, etc. dans cette région. Mais il y a de grandes souffrances et aussi il y a de la pauvreté. Mais au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, qu'est-ce qu'on trouve? De la joie. Et une joie débordante. Et avec leur pauvreté, on trouve aussi une très grande générosité. Donc c'est assez frappant de voir que cette église, dans une grande souffrance, face à sa propre pauvreté, par la grâce du Seigneur, a un désir profond de donner. Et là aussi, on peut réfléchir un tout petit peu pour se dire, tiens, c'était quand la dernière fois que moi-même j'étais dans une situation de grande épreuve? Peut-être c'est même maintenant. Peut-être vous êtes actuellement dans une situation de grande souffrance. Peut-être il y en a parmi nous pour qui cette souffrance implique des besoins financiers. Et je peux vous dire que quand je pense à ma souffrance, quand je pense au moment où moi-même j'étais confronté par des besoins financiers, ce n'était pas du tout naturel pour moi d'être dans la joie ou de trouver un esprit de générosité, au contraire. Donc c'est quand même intéressant de voir qu'arriver à trouver de la joie au milieu de nos souffrances et de la générosité dans une situation de pauvreté, ça, c'est une œuvre miraculeuse de la part de notre Dieu. Et c'est ce que cette Église est en train de vivre. Et puis, juste dernière remarque en rapport avec ce premier point, verset 5. « Ils ont fait plus ce que nous espérions, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. » Et ça, les amis, en méditant ce passage cette semaine, j'avoue que cette phrase m'a beaucoup interpellé. Ce n'est pas simplement une question d'un don financier. Même avant d'arriver au point où, dans la souffrance et dans la pauvreté, ils ont pu faire preuve d'une grande générosité, avant ça, ces frères et sœurs se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Ça, c'est frappant. Parce que ça veut dire qu'ils avaient déjà une mentalité de main ouverte devant le Seigneur. Ben, de toute façon, Seigneur, Ma vie t'appartient. Et tout ce que j'ai t'appartient. Et si je mange aujourd'hui, c'est grâce à toi. Et si je paye mon loyer aujourd'hui, c'est grâce à toi. Si j'arrive à avoir des vêtements aujourd'hui, c'est grâce à toi. Maintenant que je suis enfant de Dieu, je reconnais que tout ce que j'ai vient de ta main. Et donc, ça me donne une grande liberté si j'ai juste quelques morceaux de pain à partager. Parce que je sais que c'est toi qui pourvois à mes besoins. Je me suis donné d'abord au Seigneur et puis ensuite ça me libère pour être généreux même face à ma propre pauvreté. Donc voilà, premier point, la notion de l'Église de la Macédoine comme modèle, un modèle franchement assez extraordinaire. Puis deuxième point, c'est la générosité de Jésus-Christ. Et là, on va voir que dans les premiers versets de ce deuxième paragraphe, Paul, il dévoile son objectif. Nous avons donc encouragé Tite à parachever chez vous aussi ce geste de générosité. Maintenant qu'on a vu ce qu'a fait l'Église de la Macédoine, maintenant les amis, à vous, à votre tour. Et si même face à ce modèle, vous avez du mal à trouver la motivation, un petit rappel. Et si même face à la réalité de votre abondance financière, ce que vous avez vu dans le texte, il répète à plusieurs reprises le mot abondance. Abondance. Parce que ces églises à Corinthe sont dans l'abondance, dans le superflu. Ils ont tout ce dont ils ont besoin pour les dépenses de tous les jours et beaucoup plus. Mais petit rappel, n'oubliez pas les amis, ce qu'a fait Jésus. En effet, verset 9, « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre, alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Peut-être pour certains qui connaissent un petit peu l'histoire de Jésus, on peut se gratter la tête en disant, « Mais à quel moment dans sa vie est-ce que Jésus était riche ?» Il était né dans une étable quand même, une famille hyper pauvre. C'est même possible et probable que son papa est décédé pendant sa jeunesse. En tout cas, à partir d'un certain temps, on n'entend plus rien par rapport à Joseph. Il a passé les années de sa vie d'adulte plutôt sans domicile fixe. Il vivait dans la dépendance de la générosité, notamment d'un groupe de femmes, plutôt bien ressourcées. Et on peut se poser la question, à quel moment est-ce que Jésus s'est fait pauvre alors qu'il était riche? Le pauvre, il a passé sa vie dans la pauvreté lui-même. Ben justement, ce que Paul est en train de décrire ici, c'est l'idée que Jésus-Christ vivait, existait avant de naître, avant de justement commencer sa vie de pauvre, presque d'étranger parce qu'il a grandi dans une région hyper éloignée de Jérusalem. Donc, c'était le pays des païens. Avant de commencer cette vie-là, Jésus était avec Dieu le Père, le Fils bien-aimé. Il avait tout. Et en Philippiens chapitre 2, c'est quand même intéressant, cette lettre qui est écrite à une de ces églises en Macédoine. Paul parle de la pauvreté de Jésus-Christ. Lui qui avait tout, il s'est dépouillé. Il a pris la place d'un serviteur. Il est devenu rien afin de nous enrichir. Et en fait, c'est un petit rappel du fait que notre richesse spirituelle aujourd'hui, on l'a grâce à la pauvreté de Jésus-Christ. On va revenir sur cette idée après la conclusion, quand on prépare la Sainte Cène. Donc, je vais avancer assez rapidement vers un troisième point dernier point. Donc, de motivation, c'était l'engagement initial des églises de Corinthe, versets 10 à 15. Et là, je relis tout simplement, c'est un avis que je donne à ce sujet et c'est ce qui vous convient puisque dès l'année dernière, vous avez été les premiers non seulement à faire une collecte, mais aussi à la vouloir. Et donc là, Paul fait appel au souvenir de ses Corinthiens. S'il y a d'autres églises aujourd'hui qui donnent, et si cette collecte commence à grandir pour soulager nos frères et sœurs qui souffrent à Jérusalem, c'est en partie grâce à vous. Vous étiez au début de ce projet et maintenant, il les encourage à aller jusqu'au bout et il introduit ici un principe d'égalité en verset 13. En effet, il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse. Oui, Jésus s'est fait pauvre pour vous enrichir, mais ce n'est pas ce que je demande de vous, les Corinthiens. Je ne vous demande pas de vous mettre dans la détresse afin d'enrichir les autres. Ça, c'est Jésus qui a fait ça. Tout ce que je demande, c'est que vous preniez un petit peu de ce que vous avez, que vous mettez ça de côté, afin qu'il y ait quelque chose pour bénir les autres qui n'ont quasiment rien. Et là, il fait référence à un principe d'égalité. Dans les circonstances actuelles, votre abondance, là c'est une abondance matérielle, pourvoira à leurs besoins matériels, afin que leur abondance, et on peut dire, mais quelle abondance, tu viens de dire qu'ils étaient pauvres, ils sont dans le besoin. Mais leur abondance aussi pourvoit à vos besoins. On a un petit aperçu de quelle abondance il s'agit en chapitre 9. Regardez juste brièvement avec moi le verset 11 qui dit ceci. Ainsi, vous serez enrichis, vous les Corinthiens, que vous êtes déjà riches sur le plan matériel. Mais vous serez enrichis à tout point de vue, pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. En effet, le service de cette collecte ne pourvoit pas seulement aux besoins des saints, il fait aussi abonder les prières de reconnaissance envers Dieu. Deuxième fois qu'on parle de ça. À travers l'expérience qu'ils font de ce service, ils célèbrent la gloire de Dieu à cause de l'obéissance dont vous faites preuve dans votre adhésion à l'évangile de Christ et de votre générosité dans la solidarité avec eux et avec tous. Et puis verset 14, ils prient pour vous parce qu'ils ont une vive affection pour vous à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a faite. Que Dieu soit remercié pour son don incomparable. C'est assez extraordinaire ce que Paul est en train de dire ici. Vous, les chrétiens qui sont riches, vous allez partager votre richesse avec les chrétiens qui sont pauvres. Mais il y a un principe intéressant dans le royaume de Dieu. Et c'est que très souvent, ce sont les chrétiens qui sont les plus pauvres qui ont tendance à être riches sur le plan spirituel, n'est-ce pas? Justement, en Jacques chapitre 2, où il y a un vrai problème de favoritisme entre les riches et les pauvres, et les riches qui sont privilégiés et les pauvres qui sont mis de côté. Jacques, il est en train de dire, mais attendez les amis, est-ce que vous avez oublié votre Seigneur et Sauveur et la nature de son royaume? Notre Dieu a choisi les pauvres pour qu'ils soient riches en foi et héritiers du royaume qu'il a préparé. Et donc là, Paul est en train de dire, tiens, ces deux communautés ont quelque chose à contribuer l'une à l'autre. Une richesse de chaque côté pour qu'il y ait égalité. Et donc, il est en train d'encourager un vrai partage inter-église pour le bien de tous. Et tout ceci en lien avec l'évangile de Christ, votre adhésion à l'évangile de Jésus-Christ. Ok, on revient à notre question conductrice. Je vais la formuler d'une autre manière. Qu'est-ce qui nous empêcherait, nous, l'Église Grenoble-Est, de ressembler plus aux églises de la Macédoine? Une église qui est riche pour Dieu, constituée de frères et sœurs qui se donnent eux-mêmes au Seigneur, qui ont les mains ouvertes pour partager, peut-être d'un côté des biens spirituels, mais aussi des biens matériels. Là, j'aimerais suggérer qu'il y a au moins trois choses qui peuvent nous empêcher. Il y a au moins deux choses qui peuvent nous empêcher, deux réponses à cette question. Et le premier, c'est notre péché principal pour aujourd'hui, l'avarice, cet attachement excessif aux biens. Et là, on peut parler de trois éléments provocateurs qui nous compliquent la vie. En fait, un élément, il faut le reconnaître. Si tu es quelqu'un qui a beaucoup bossé et je vois juste devant moi un certain nombre de personnes où je sais que vous travaillez dur, vous avez de longues journées, vous avez dans certains cas fait des années d'études pour arriver là où vous êtes Et si vous êtes bien rémunéré aujourd'hui, si vous gagnez bien votre vie, c'est au moins en partie parce que vous avez sué, est-ce que je peux dire comme ça, beaucoup, transpiré. Il y a un gros travail. Et justement, on peut avoir beaucoup de respect pour tout cela et en même temps reconnaître que plus je suis convaincu que ce que j'ai, les biens que j'ai, m'appartiennent parce que j'ai tellement bien travaillé pour les avoir, plus on peut avoir du mal à ouvrir la main pour les partager. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Parce que c'est à moi. Moi, j'ai fait le travail pour les gagner. Une autre chose qui nous provoque, qui complique un peu la vie, c'est surtout pour ceux qui ont connu une vraie pauvreté. Si vous avez jamais passé par une période de manque où il n'y avait pas assez, peut-être on ne savait pas comment on allait payer notre loyer. On ne savait pas comment on allait pouvoir faire les courses pour manger. Et je suis sûr qu'il y a des personnes dans cette salle qui ont connu des moments de ce genre. Alors là, quand on a connu la pauvreté, ça peut être aussi difficile quand on a plus, et surtout si on est vraiment bien, d'ouvrir la main de peur de nous retrouver dans une situation précaire encore. Et ça se comprend. Il y a un troisième élément un peu provocateur qui peut être une pression sociale ou même familiale quand les membres de la famille, que ce soit mon frère ou ma sœur ou surtout le pire, mon beau-frère qui gagne bien sa vie, qui a une belle maison et en fait la belle famille qui part en vacances. Et en fait, vous voyez, ça met un peu de pression. Pareil avec l'entourage quand les voisins reviennent de belles vacances en Thaïlande, par exemple, nous montrent les belles photos et nous, on a fait un petit camping dans le sud de la France, bon, c'est ce qu'on fait en général, nous. Franchement, on peut avoir envie de vivre les belles vacances aussi. Après, on commence à réfléchir quand même d'ici l'été prochain par rapport aux dépenses. Ben, si on veut faire des vacances en Thaïlande, il va falloir qu'on mette de côté, etc. Parce que voilà. Et c'est pareil dans pas mal d'autres domaines. On peut se ressentir une certaine pression, que ce soit liée à la famille ou à l'entourage, de ne pas nous retrouver dans une situation inférieure qui nous empêche justement d'ouvrir la main. Voilà. Trois indicateurs. Peut-être que l'avarice a trouvé une place dans nos vies. Un indicateur, c'est mon relevé de compte. Si quelqu'un que je ne connais pas du tout, tout ce qu'il sait sur ma vie, c'est qu'il examine mon relevé de compte et il fait, entre guillemets, un jugement sur qui je suis. Qu'est-ce qui a de la valeur pour moi? Quelles sont mes priorités? Quelles seront ses conclusions? Juste en regardant mes dépenses, purement. Quelle image de moi est-ce qu'il aura quand il voit l'activité de mon compte bancaire et de ma carte bleue? Ça, c'est un indicateur intéressant à prendre en compte. L'autre chose, c'est ce qu'on a... Oh là, je pensais changer ce mot, désolé. On avait modifié, mais on a oublié peut-être. C'est pas fantasme, je suis désolé. Ça, c'est un problème de traduction entre l'anglais et le français. Avec mon ami Thibault, on a cherché un autre mot. Je pense qu'on a dit rêverie ou le fait, ce qu'on appelle en anglais, juste the daydreams, en fait. Cette idée de, en fait, si quelqu'un pouvait regarder mes pensées, là, on n'est pas du tout dans le domaine sexuel, hein, on est plus dans le domaine commercial. Le nombre d'heures que je dépense à peut-être regarder justement les lieux de vacances, à comparer peut-être les prix de vol, chercher des Airbnb, etc. Peut-être à regarder les appartements qui sont en vente, ou peut-être dans certains cas même les maisons, ou peut-être des meubles, ou la déco. Peut-être pour certains c'est plutôt les voitures, ou les motos, ou les vélos. Ou les vêtements, ou peut-être les chaussures, l'équipement de sport. Pour certains, ça peut être tout ce qui touche à la cuisine, ou à la musique, ou à la technologie. Si cette personne pouvait avoir un aperçu de mes pensées, des heures consacrées à rechercher, à regarder, à penser, à discuter de ces différentes choses-là, matérielles, si c'est tout ce que cette personne savait de moi, quelle conclusion ? Ce qu'elle formulerait quant à mes valeurs, mes priorités. mon maître. Puis un troisième, c'est le stress et l'anxiété qui s'associe à mes biens. Si quelqu'un qui ne me connaît pas pouvait examiner mon niveau de stress et ma vie émotionnelle en lien avec mes biens, ma situation financière, mon compte bancaire, pareil, quelles seraient ses conclusions concernant mes valeurs, mes priorités, mon caractère? En gros, en examinant ces choses-là, est-ce que cette personne aurait plutôt tendance à dire, « Eh bien, le trésor de Nicolas, c'est son Dieu, un Dieu qui est généreux et qui est roi d'un royaume où ceux qui n'ont pas bénéficient de la générosité de ceux qui ont et vice-versa. » Ou est-ce que, en examinant ces choses dans ma vie, on dirait plutôt, « Eh bien là, le trésor de Nicolas, c'est clairement l'argent, c'est les biens, c'est ça son maître. » Jésus le dit clairement en Matthieu 6, « En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Donc mon compte bancaire, ce qui se passe dans mes pensées, mon niveau de stress, toutes ces choses auront tendance à me révéler quel est mon vrai trésor. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Puis une deuxième plus rapidement, c'est l'insouciance, la mauvaise gestion des biens et la négligence de ses responsabilités vocationnelles. Il y en a qui vont juste dépenser sans réfléchir. Il y en a qui vont gaspiller leur argent. Il y en a qui vont pas travailler du tout ou mal travailler et donc mal gagner leur vie. Et je ne dis pas du tout que la pauvreté, c'est toujours la conséquence de telles choses. Mais pour certains, le problème, c'est pas une incapacité de trouver un travail. C'est l'insouciance. C'est la mauvaise gestion des ressources que Dieu m'a donné qui peut être un empêchement pour que je vive cette dynamique. Et donc, que faire pour terminer, pour conclure rapidement? 5 petites suggestions concrètes. Je ne vais pas les expliquer, je vais juste les citer. On peut faire un bilan de mes dépenses pendant un mois et en me posant la question « Où va mon argent ?» Et quelle preuve de générosité se manifeste dans mon relevé de compte. Deuxième, un break, faire une pause, peut-être un jeûne de tout média qui m'expose à des offres commerciaux. Et vous connaissez, quels sont les domaines de tentation pour vous. Je viens de citer toute une liste. Mais l'idée de me couper de tout ce monde pendant un temps, pour laisser respirer mon âme, plutôt que de tous les jours me retrouver face à ces objets, ces objets matériaux qui me donnent envie. Troisième, une prise de conscience de la réalité de la précarité près de chez moi et ailleurs dans le monde. Parfois, je suis tellement concentré sur ma propre vie et ma propre situation que je passe à côté de la réalité de précarité qui est devant ma porte. Et donc, me dire, tiens, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je vois quels sont les besoins autour de moi, peut-être rien que dans mon église, peut-être aussi ailleurs dans le monde. Faire un don. En fait, tu peux décider dans la semaine qui vient de faire preuve de générosité, tout simplement de donner, que ce soit faire preuve de générosité envers l'Église ou de contribuer à une association ou de donner quelque chose à quelqu'un qui est dans le besoin, dans votre entourage, de mettre en œuvre cet appel à la générosité. Et puis, dernière chose, c'est une discussion. Je vous encourage vivement à prendre du temps cette semaine pour parler de ce sujet, alors que ce n'est pas facile, que ce soit avec ton époux, avec tes enfants, avec des amis, avec le groupe de quartier, si tu es dans un groupe de croissance avec ces personnes-là, peut-être même avec tes voisins, afin de s'encourager mutuellement à réfléchir différemment et apprendre à avancer dans notre capacité de refléter la générosité de Dieu. Je vais juste prier et après, on va préparer la Sainte Cène. Prions. J'aimerais tout simplement demander ton aide, Seigneur, avec tout ça. Beaucoup de choses ont été dites. Il y a beaucoup à digérer. Encore une fois, nous sommes dans la dépendance de ton Esprit Saint pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire dans nos vies aujourd'hui. Par ta grâce, Seigneur, laisse-nous. Je prie qu'on se laisse inspirer par ton exemple, le modèle de la Macédoine, le sacrifice de Jésus-Christ. afin que nous aussi, on participe à cette grâce, faisant preuve de générosité envers les autres. À la gloire de ton nom. Amen.